Consuelo, livre 2, chapitre 55. Albert fit chanter d'abord à son instrument plusieurs de ces cantiques anciens, dont les auteurs sont ou inconnus chez nous, ou peut-être oubliés désormais en Bohême, mais dont Zenko avait gardé la précieuse tradition, et dont le comte avait retrouvé la lettre, à force d'études et de méditations. Il s'était tellement nourri l'esprit de ces compositions, barbares au premier abord, mais profondément touchantes et vraiment belles pour un goût sérieux et éclairé, qu'il se les était assimilés au point de pouvoir improviser longtemps sur l'idée de ses motifs, y mêler ses propres idées, reprendre et développer le sentiment primitif de la composition, et s'abandonner à son inspiration personnelle, sans que le caractère original, austère et frappant de ses chants antiques fût altéré par son interprétation ingénieuse et savante. Consuelo s'était promis d'écouter et de retenir ces précieux échantillons de l'ardent génie populaire de la vieille bohème. Mais tout esprit d'examen lui devint bientôt impossible, tant à cause de la disposition rêveuse où elle se trouvait, qu'à cause du vague répandu dans cette musique étrangère à son oreille. Il y a une musique qu'on pourrait appeler naturelle, parce qu'elle n'est point le produit de la science et de la réflexion, mais celui d'une inspiration qui échappe à la rigueur des règles et des conventions. C'est la musique populaire, c'est celle des paysans particulièrement. Que de belles poésies naissent, vivent et meurent chez eux, sans avoir jamais eu les honneurs d'une notation correcte, et sans avoir daigné se renfermer dans la version absolue d'un thème arrêté. L'artiste inconnu, qui improvise sa rustique ballade en gardant ses troupeaux, ou en poussant le choc de sa charrue, et il en est encore, même dans les contrées qui paraissent les moins poétiques, s'astreindra difficilement à retenir et à fixer ses fugitives idées. Il communique cette ballade aux autres musiciens, enfants comme lui de la nature, et ceux-ci la colportent de hameau en hameau, de chaumière en chaumière, chacun la modifiant au gré de son génie individuel. C'est pour cela que ses chansons et ses romances pastorales, si piquantes de naïveté ou si profondes de sentiment, se perdent pour la plupart et n'ont guère jamais plus d'un siècle d'existence dans la mémoire des paysans. Les musiciens formés aux règles de l'art ne s'occupent point assez de les recueillir. La plupart les dédaignent, faute d'une intelligence assez pure et d'un sentiment assez élevé pour les comprendre. D'autres se rebutent de la difficulté qu'ils rencontrent aussitôt qu'ils veulent trouver cette véritable et primitive version, qui n'existe déjà peut-être plus pour l'auteur lui-même, et qui certainement n'a jamais été reconnue comme un type déterminé et invariable par ses nombreux interprètes. Les uns l'ont altéré par ignorance, les autres l'ont développé, orné ou embelli par l'effet de leur supériorité, parce que l'enseignement de l'art ne leur a point appris à en refouler les instincts. Ils ne savent point eux-mêmes qu'ils ont transformé l'œuvre primitive, et leurs naïfs auditeurs ne s'en aperçoivent pas davantage. Le paysan n'examine ni ne compare. Quand le ciel l'a fait musicien, il chante à la manière des oiseaux, du rossignol surtout, dont l'improvisation est continuelle, quoique les éléments de son chant variés à l'infini soient toujours les mêmes. D'ailleurs, le génie du peuple est d'une fécondité sans limite. Il n'a pas besoin d'enregistrer ses productions. Il produit sans se reposer, comme la terre qu'il cultive. Il crée à toute heure, comme la nature qu'il inspire. Consuelo avait dans le cœur tout ce qu'il faut y avoir de candeur, de poésie et de sensibilité, pour comprendre la musique populaire et pour l'aimer passionnément. En cela, elle était grande artiste, et les théories savantes qu'elle avait approfondies n'avaient rien ôté à son génie de cette fraîcheur et de cette suavité qui est le trésor de l'inspiration et la jeunesse de l'âme. Elle avait dit quelquefois à Anzoletto, en cachette du Porpora, qu'elle aimait mieux certaines barcaroles des pêcheurs de l'Adriatique que toute la science de Padre Martini et de Maestro Durante. Les boléros et les cantiques de sa mère étaient pour elle une source de vie poétique, où elle ne se lassait pas de puiser tout au fond de ses souvenirs chéris. Quelle impression devait donc produire sur elle le génie musical de la bohème, l'inspiration de ce peuple pasteur, guerrier, fanatique, grave et doux au milieu des plus puissants éléments de force et d'activité. C'était là des caractères frappants et tout à fait neufs pour elle. Albert disait cette musique avec une rare intelligence de l'esprit national et du sentiment énergique et pieux qu'il avait fait naître. Il y joignait, en improvisant, la profonde mélancolie et le regret déchirant que l'esclavage avait imprimé à son caractère personnel et à celui de son peuple. Et ce mélange de tristesse et de bravoure, d'exaltation et d'abattement, ces hymnes de reconnaissance unis à des cris de détresse étaient l'expression la plus complète et la plus profonde, et de la pauvre bohème et du pauvre Albert. On a dit avec raison que le but de la musique, c'était l'émotion. Aucun autre art ne réveillera d'une manière aussi sublime le sentiment humain dans les entrailles de l'homme. Aucun autre art ne peindra aux yeux de l'âme et les splendeurs de la nature, et les délices de la contemplation, et le caractère des peuples, et le tumulte de leurs passions, et les langueurs de leurs souffrances. Le regret, l'espoir, la terreur, le recueillement, la consternation, l'enthousiasme, la foi, le doute, la gloire, le calme, tout cela et plus encore, la musique nous le donne et nous le reprend, au gré de son génie et selon toute la portée du nôtre. Elle crée même l'aspect des choses, et sans tomber dans les puérilités des effets de sonorité, ni dans l'étroite imitation des bruits réels, elle nous fait voir, à travers un voile vaporeux qui les agrandit et les divinise, les objets extérieurs où elle transporte notre imagination. Certains cantiques feront apparaître devant nous les fantômes gigantesques des antiques cathédrales, en même temps qu'ils nous feront pénétrer dans la pensée des peuples qui les ont bâtis et qui s'y sont prosternés pour chanter leurs hymnes religieux. Pour qui saurait exprimer puissamment et naïvement la musique des peuples divers, et pour qui saurait l'écouter comme il convient, il ne serait pas nécessaire de faire le tour du monde, de voir les différentes nations, d'entrer dans leurs monuments, de lire leurs livres et de parcourir leurs steppes, leurs montagnes, leurs jardins ou leurs déserts. Un chant juif bien rendu nous fait pénétrer dans la synagogue. Toute l'Écosse est dans un véritable air écossais, comme toute l'Espagne est dans un véritable air espagnol. J'ai été souvent ainsi en Pologne, en Allemagne, à Naples, en Irlande, dans l'Inde, et je connais mieux ces hommes et ces contrées que si je les avais examinés durant des années. Il ne fallait qu'un instant pour m'y transporter et m'y faire vivre de toute la vie qui les anime. C'était l'essence de cette vie que je m'assimilais sous le prestige de la musique. Peu à peu, Consuelo cessa d'écouter et même d'entendre le violon d'Albert. Toute son âme était attentive, et ses sens, fermés aux perceptions directes, s'éveillaient dans un autre monde pour guider son esprit à travers des espaces inconnus habités par de nouveaux êtres. Elle voyait, dans un chaos étrange, à la fois horrible et magnifique, s'agiter les spectres des vieux héros de la bohème. Elle entendait le glas funèbre de la cloche des couvents, tandis que les redoutables taborites descendaient du sommet de leurs monts fortifiés, maigres, demi-nus, sanglants et farouches. Puis elle voyait les anges de la mort se rassembler sur les nuages, le calice et le glaive à la main. Suspendues en troupes serrées sur la tête des pontifes prévaricateurs, elle les voyait verser sur la terre maudite la coupe de la colère divine. Elle croyait entendre le choc de leurs ailes pesantes et le sang du Christ tomber en larges gouttes derrière eux pour éteindre l'embrasement allumé par leur fureur. Tantôt c'était une nuit d'épouvante et de ténèbres où elle entendait gémir et râler les cadavres abandonnés sur les champs de bataille. Tantôt c'était un jour ardent dont elle osait soutenir l'éclat et où elle voyait passer, comme la foudre, le redoutable aveugle sur son char, avec son casque rond, sa cuirasse rouillée, et le bandeau ensanglanté qui lui couvrait les yeux. Les temples s'ouvraient d'eux-mêmes à son approche. Les moines fuyaient dans le sein de la terre, emportant et cachant leurs reliques et leurs trésors dans les pans de leurs robes. Alors, les vainqueurs apportaient des vieillards exténués, mendiants, couverts de plaies comme Lazare. Des fous accouraient en chantant et en riant comme Zenko. Les bourreaux souillés d'un sang livide, les petits enfants aux mains pures, aux fronts angéliques, les femmes guerrières portant des faisceaux de piques et des torches de résine, tous s'asseyaient autour d'une table. Et un ange, radieux et beau comme ceux qu'Albert Durer a placés dans ses compositions apocalyptiques, venait offrir à leurs lèvres avides la coupe de bois, le calice du pardon, de la réhabilitation et de la sainte égalité. Cet ange reparaissait dans toutes les visions qui passèrent en cet instant devant les yeux de Consuelo. En le regardant bien, elle reconnut Satan, le plus beau des immortels après Dieu, le plus triste après Jésus, le plus fier parmi les plus fiers. Il traînait après lui les chaînes qu'il avait brisées, et ses ailes fauves, dépouillées et pendantes, portaient les traces de la violence et de la captivité. Il souriait douloureusement aux hommes souillés de crimes et pressait les petits-enfants sur son sein. Tout à coup, il sembla à Consuelo que le violon d'Albert parlait et qu'il disait par la bouche de Satan « Non, le Christ, mon frère, ne vous a pas aimé plus que je ne vous aime. Il est temps que vous me connaissiez et qu'au lieu de m'appeler l'ennemi du genre humain, vous retrouviez en moi l'ami qui vous a soutenu dans la lutte. Je ne suis pas le démon, je suis l'archange de la révolte légitime et le patron des grandes luttes. Comme le Christ, je suis le Dieu du pauvre, du faible et de l'opprimé. Quand il vous promettait le règne de Dieu sur la terre, quand il vous annonçait son retour parmi vous, il voulait dire qu'après avoir subi la persécution, vous seriez récompensé en conquérant avec lui et avec moi la liberté et le bonheur. C'est ensemble que nous devions revenir, et c'est ensemble que nous revenons, tellement unis l'un à l'autre que nous ne faisons plus qu'un. C'est lui, le divin principe, le Dieu de l'esprit, qui est descendu dans les ténèbres où l'ignorance m'avait jeté, et où je subissais, dans les flammes du désir et de l'indignation, les mêmes tourments que lui ont fait endurer sur sa croix les scribes et les pharisiens de tous les temps. Me voici pour jamais avec vos enfants, car il a rompu mes chaînes, il a éteint mon bûcher, il m'a réconcilié avec Dieu et avec vous. Et désormais, la ruse et la peur ne seront plus la loi et le partage du faible, mais la fierté et la volonté. C'est lui, Jésus, qui est le miséricordieux, le doux, le tendre et le juste. Moi, je suis le juste aussi, mais je suis le fort, le belliqueux, le sévère et le persévérant. Ô peuple, ne reconnais-tu pas celui qui t'a parlé dans le secret de ton cœur depuis que tu existes, et qui dans toutes tes détresses t'a soulagé en te disant « Cherche le bonheur, n'y renonce pas, le bonheur t'est dû, exige-le et tu l'auras. Ne vois-tu pas sur mon front toutes tes souffrances et sur mes membres meurtris la cicatrice des fers que tu as portés ? Bois le calice que je t'apporte. Tu y trouveras mes larmes mêlées à celles du Christ et aux tiennes. Tu les sentiras aussi brûlantes et tu les boiras aussi salutaires. » Cette hallucination remplit de douleur et de pitié le cœur de Consuelo. Elle croyait voir et entendre l'ange déchu pleurer et gémir auprès d'elle. Elle le voyait grand, pâle, et beau, avec ses longs cheveux en désordre sur son front foudroyé, mais toujours fier et levé vers le ciel. Elle l'admirait en frissonnant encore par habitude de le craindre, et pourtant elle l'aimait de cet amour fraternel et pieux qu'inspire la vue des puissantes infortunes. Il lui semblait qu'au milieu de la communion des frères bohèmes, c'était à elle qu'il s'adressait, qu'il lui reprochait doucement sa méfiance et sa peur, et qu'il l'attirait vers lui par un regard magnétique auquel il lui était impossible de résister. Fascinée, Hors d'elle-même, elle se leva et s'élança vers lui les bras ouverts en fléchissant les genoux. Albert laissa échapper son violon, qui rendit un son plaintif en tombant, et reçut la jeune fille dans ses bras en poussant un cri de surprise et de transport. C'était lui que Consuelo écoutait et regardait en rêvant à l'ange rebelle. C'était sa figure, en tout semblable à l'image qu'elle s'en était formée, qui l'avait attirée et subjuguée. C'était contre son cœur qu'elle venait appuyer le sien, en disant d'une voix étouffée « à toi, ange de douleur, à toi et à Dieu, pour toujours !» Mais à peine les lèvres tremblantes d'Albert eurent-elles effleuré les siennes, qu'elle sentit un froid mortel et de cuisante douleur glacer et embraser tour à tour sa poitrine et son cerveau. Enlevée brusquement à son illusion, elle éprouva un choc si violent dans tout son être qu'elle se crut près de mourir. Et, s'arrachant des bras du comte, elle alla tomber contre les ossements de l'autel, dont une partie s'écroula sur elle avec un bruit affreux. En se voyant couverte de ces débris humains, et en regardant Albert qu'elle venait de presser dans ses bras et de rendre en quelque sorte maître de son âme et de sa liberté dans un moment d'exaltation insensée, elle éprouva une terreur et une angoisse si horribles qu'elle cacha son visage dans ses cheveux épars en criant avec des sanglots « Hors d'ici, hors d'ici, au nom du ciel, de l'air, du jour, ô mon Dieu, tirez-moi de ce sépulcre et rendez-moi la lumière du soleil !» Albert, la voyant pâlir et délirer, s'élança vers elle et voulut la prendre dans ses bras pour la porter hors du souterrain. Mais dans son épouvante, elle ne le comprit pas, et se relevant avec force, elle se mit à fuir vers le fond de la caverne, au hasard et sans tenir compte des obstacles, des bras sinueux de la source qui se croisaient devant elle et qui, en plusieurs endroits, offraient de grands dangers. « Au nom de Dieu !» criait Albert. « Pas par ici, arrêtez-vous, la mort est sous vos pieds, attendez-moi » Mais ses cris augmentaient la peur de Consuelo. Elle franchit deux fois le ruisseau en sautant avec la légèreté d'une biche, et sans savoir pourtant ce qu'elle faisait. Enfin, elle heurta, dans un endroit sombre et planté de cyprès, contre une éminence du terrain, et tomba, les mains en avant, sur une terre fine et fraîchement remuée. Cette secousse changea la disposition de ses nerfs. Une sorte de stupeur succéda à son épouvante. Suffoquée, haletante et ne comprenant plus rien à ce qu'elle venait d'éprouver, elle laissa le comte la rejoindre et s'approcher d'elle. Il s'était élancé sur ses traces et avait eu la présence d'esprit de prendre, à la hâte, en passant, une des torches plantées sur les rochers, afin de pouvoir au moins l'éclairer au milieu des détours du ruisseau, s'il ne parvenait pas à l'atteindre avant un endroit qu'il savait profond et vers lequel elle paraissait se diriger. Atterrée, brisée par des émotions si soudaines et si contraires, le pauvre jeune homme n'osait ni lui parler ni la relever. Elle s'était assise sur le monceau de terre qu'il avait fait trébucher et n'osait pas non plus lui adresser la parole. Confuse et les yeux baissés, elle regardait machinalement le sol où elle se trouvait. Tout à coup, elle s'aperçut que cette éminence avait la forme et la dimension d'une tombe, et qu'elle était effectivement assise sur une fosse récemment recouverte, que jonchaient quelques branches de cyprès à peine flétries et des fleurs desséchées. Elle se leva précipitamment, et dans un nouvel accès d'effroi qu'elle ne put maîtriser, elle s'écria « Oh, Albert, qui donc avez-vous enterré ici ?» « J'y ai enterré ce que j'avais de plus cher au monde avant de vous connaître, » répondit Albert en laissant voir la plus douloureuse émotion. « Si c'est un sacrilège, comme je l'ai commis dans un jour de délire et avec l'intention de remplir un devoir sacré, Dieu me le pardonnera. Je vous dirai plus tard quelle âme habita le corps qui repose ici. Maintenant, vous êtes trop ému et vous avez besoin de vous retrouver au grand air. « Venez, Consuelo, sortons de ce lieu où vous m'avez fait dans un instant le plus heureux et le plus malheureux des hommes. »« Oh oui !» s'écria-t-elle, « sortons d'ici. Je ne sais quelle vapeur s'exhale du sein de la terre, mais je me sens mourir et ma raison m'abandonne. » Ils sortirent ensemble Sans se dire un mot de plus, Albert marchait devant, en s'arrêtant et en baissant sa torche à chaque pierre pour que sa compagne pût la voir et l'éviter. Lorsqu'il voulut ouvrir la porte de la cellule, un souvenir, en apparence éloigné de la disposition d'esprit où elle se trouvait, mais qui s'y rattachait par une préoccupation d'artiste, se réveilla chez Consuelo. « Albert, dit-elle, vous avez oublié votre violon auprès de la source. Cet admirable instrument qui m'a causé des émotions inconnues jusqu'à ce jour, je ne saurais consentir à le savoir abandonné à une destruction certaine dans cet endroit humide. » Albert fit un mouvement qui signifiait le peu de prix qu'il attachait désormais à tout ce qui n'était pas Consuelo. Mais elle insista. « Il m'a fait bien du mal, lui dit-elle. Et pourtant, s'il ne vous a fait que du mal, laissez-le se détruire, répondit-il avec amertume. Je n'y veux plus toucher de ma vie. Ah, il me tarde qu'il soit anéanti. Je mentirais si je disais cela, reprit Consuelo, rendu à un sentiment de respect pour le génie musical du comte. L'émotion a dépassé mes forces, voilà tout, et le ravissement s'est changé en agonie. Allez le chercher, mon ami. Je veux moi-même le remettre avec soin dans sa boîte, en attendant que j'aie le courage de l'en tirer, pour le replacer dans vos mains et l'écouter encore. » Consuelo fut attendrie par le regard de remerciement que lui adressa le comte en recevant cette espérance. Il rentra dans la grotte pour lui obéir. Et, restée seule quelques instants, elle se reprocha sa folle terreur et ses soupçons affreux. Elle se rappelait, en tremblant et en rougissant, ce mouvement de fièvre qu'il avait jeté dans ses bras. Mais elle ne pouvait se défendre d'admirer le respect modeste et la chaste timidité de cet homme qui l'adorait et qui n'osait pas profiter d'une telle circonstance pour lui dire même un mot de son amour. La tristesse qu'elle voyait dans ses traits et la langueur de sa démarche brisée annonçaient assez qu'il n'avait conçu aucune espérance audacieuse, ni pour le présent, ni pour l'avenir. Elle lui sut gré d'une si grande délicatesse de cœur, et se promit d'adoucir par de plus douces paroles l'espèce d'adieu qu'ils allaient se faire en quittant le souterrain. Mais le souvenir de Zenko, comme une ombre vengeresse, devait la suivre jusqu'au bout et accuser Albert en dépit d'elle-même. En s'approchant de la porte, ses yeux tombèrent sur une inscription en bohémien, dont, excepté un seul, elle comprit aisément tous les mots, puisqu'elle les savait par cœur. Une main, qui ne pouvait être que celle de Zenko, avait tracé à la craie sur la porte noire et profonde « Que celui à qui on a fait tort te... » Le dernier mot était inintelligible pour Consuelo, et cette circonstance lui causa une vive inquiétude. Albert revint, serra son violon sans qu'elle eût le courage ni même la pensée de l'aider, comme elle le lui avait promis. Elle retrouvait toute l'impatience qu'elle avait éprouvée de sortir du souterrain. Lorsqu'il tourna la clé avec effort dans la serrure rouillée, elle ne put s'empêcher de mettre le doigt sur le mot mystérieux en regardant son hôte d'un air d'interrogation. « Cela signifie, répondit Albert avec une sorte de calme, que l'ange méconnu, l'ami du malheureux, celui dont nous parlions tout à l'heure, Consuelo. Oui, Satan, je sais cela. Et le reste? Que Satan, dis-je, te pardonne. Et quoi pardonner? Reprit-elle en pâlissant. Si la douleur doit se faire pardonner, répondit le comte avec une sérénité mélancolique, j'ai une longue prière à faire. Ils entrèrent dans la galerie et ne rompirent plus le silence jusqu'à la cave du moine. Mais lorsque la clarté du jour extérieur vint, à travers le feuillage, tomber en reflets bleuâtres sur le visage du comte, Consuelo vit que deux ruisseaux de larmes silencieuses coulaient lentement sur ses joues. Elle en fut affectée. Et cependant, lorsqu'il s'approcha d'un air craintif pour la transporter jusqu'à la sortie, elle préféra mouiller ses pieds dans cette eau saumâtre que de lui permettre de la soulever dans ses bras. Elle prit pour prétexte l'état de fatigue et d'abattement où elle le voyait, et hasardait déjà sa chaussure délicate dans la vase, lorsqu'Albert lui dit en éteignant son flambeau. « Adieu donc, Consuelo. Je vois à votre aversion pour moi que je dois rentrer dans la nuit éternelle. Et, comme un spectre évoqué par vous un instant, retourner à ma tombe après n'avoir réussi qu'à vous faire peur.
« Non ! Votre vie m'appartient !»
s'écria Consuelo en se retournant et en l'arrêtant. « Vous m'avez fait le serment de ne plus rentrer sans moi dans cette caverne, et vous n'avez pas le droit de le reprendre. « Et pourquoi voulez-vous imposer le fardeau de la vie humaine au fantôme d'un homme ? Le solitaire n'est que l'ombre d'un mortel, et celui qui n'est point aimé est seul partout et avec tous.
« Albert, Albert, vous me déchirez le cœur. Venez, portez-moi dehors. Il me semble qu'à la pleine lumière du jour, je verrai enfin clair dans ma propre destinée. »
Chapitre 56. Albert obéit. Et quand ils commencèrent à descendre de la base du Schreckenstein vers les vallons inférieurs, Consuelo sentit, en effet, ses agitations se calmer. « Pardonnez-moi le mal que je vous ai fait, » lui dit-elle en s'appuyant doucement sur son bras pour marcher. « Il est bien certain pour moi maintenant que j'ai eu tout à l'heure un accès de folie dans la grotte. « Pourquoi vous le rappelez, Consuelo ? Je ne vous en aurais jamais parlé, moi. Je sais bien que vous voudriez l'effacer de votre souvenir. Il faudra aussi que je parvienne à l'oublier. »«
Mon ami, je ne veux pas l'oublier, mais vous en demandez pardon. Si je vous racontais la vision étrange que j'ai eue en écoutant vos airs bohémiens, vous verriez que j'étais hors de sens quand je vous ai causé une telle surprise et une telle frayeur. Vous ne pouvez pas croire que j'ai voulu me jouer de votre raison et de votre repos. Mon Dieu, le ciel m'est témoin que je donnerai encore maintenant ma vie pour vous. »
« Je sais que vous ne tenez point à la vie, Consuelo. Et moi, je sens que j'y tiendrai avec tant d'âpreté si...
Achevez donc !
Si j'étais aimé comme j'aime.
Albert, je vous aime autant qu'il m'est permis de le faire. Je vous aimerai sans doute comme vous méritez de l'être, si...
Achevez à votre tour.
Si des obstacles insurmontables ne m'en faisaient pas un crime.
Et quels sont donc ces obstacles? Je les cherche en vain autour de vous. Je ne les trouve qu'au fond de votre cœur, que dans vos souvenirs, sans doute.
Ne parlons pas de mes souvenirs. Ils sont odieux, et j'aimerais mieux mourir tout de suite que de recommencer le passé. Mais votre rang dans le monde, votre fortune, l'opposition et l'indignation de vos parents, où voudriez-vous que je prisse le courage d'accepter tout cela? Je ne possède rien au monde que ma fierté et mon désintéressement. Que me resterait-il si j'en faisais le sacrifice?
Il te resterait mon amour, et le tien, si tu m'aimais. Je sens que cela n'est point, et je ne te demanderai qu'un peu de pitié. Comment pourrais-tu être humilié de me faire l'aumône de quelque bonheur? Lequel de nous serait donc prosterné devant l'autre? En quoi ma fortune te dégraderait-elle? Ne pourrions-nous pas la jeter bien vite aux pauvres si elle te pesait autant qu'à moi? Crois-tu que je n'ai pas pris dès longtemps la ferme résolution de l'employer comme il convient à mes croyances et à mes goûts, c'est-à-dire de m'en débarrasser? Quand la perte de mon père viendra ajouter la douleur de l'héritage à la douleur de la séparation? Eh bien, as-tu peur d'être riche? J'ai fait vœu de pauvreté. Crains-tu d'être illustré par mon nom? C'est un faux nom, et le véritable est un nom proscrit. Je ne le reprendrai pas. Ce serait faire injure à la mémoire de mon père. Mais dans l'obscurité où je me plongerai, nul n'en sera ébloui, je te jure, et tu ne pourras pas me le reprocher. Enfin, quant à l'opposition de mes parents, oh, s'il n'y avait que cet obstacle, dis-moi donc qu'il n'y en a pas d'autre, et tu verras.
C'est le plus grand de tous, le seul que tout mon dévouement, toute ma reconnaissance pour vous ne saurait lever.
Tu mens, Consuelo. Ose jurer que tu ne mens pas. Ce n'est pas là le seul obstacle.
Consuelo hésita. Elle n'avait jamais menti, et cependant, elle eût voulu réparer le mal qu'elle avait fait à son ami, à celui qui lui avait sauvé la vie et qui veillait sur elle depuis plusieurs mois avec la sollicitude d'une mère tendre et intelligente. Elle s'était flattée d'adoucir ses refus en invoquant des obstacles qu'elle jugeait, en effet, insurmontables. Mais les questions réitérées d'Albert la troublaient, et son propre cœur était un dédale où elle se perdait, car elle ne pouvait pas dire avec certitude si elle aimait ou si elle haïssait cet homme étrange, vers lequel une sympathie mystérieuse et puissante l'avait poussée, tandis qu'une crainte invincible et quelque chose qui ressemblait à l'aversion la faisait trembler à la seule idée d'un engagement. Il lui sembla en cet instant qu'elle haïssait Anzoletto. Pouvait-il en être autrement, lorsqu'elle le comparait avec son brutal égoïsme, son ambition abjecte, ses lâchetés, ses perfidies, à cet Albert si généreux, si humain, si pur et si grand de toutes les vertus les plus sublimes et les plus romanesques? Le seul nuage qui put obscurcir la conclusion du parallèle, c'était cet attentat sur la vie de Zenko, qu'elle ne pouvait se défendre de présumer. Mais ce soupçon n'était-il pas une maladie de son imagination, un cauchemar qu'un instant d'explication pouvait dissiper? Elle résolut de l'essayer. Et, feignant d'être distraite et de n'avoir pas entendu la dernière question d'Albert, « Mon Dieu, dit-elle en s'arrêtant pour regarder un paysan qui passait à quelque distance, j'ai cru voir Zenko. » Albert tressaillit, laissa tomber le bras de Consuelo qu'il tenait sous le sien, et fit quelques pas en avant. Puis il s'arrêta et revint vers elle en disant « Quelle erreur est la vôtre, Consuelo? Cet homme-ci n'a pas le moindre trait de… » Il ne put se résoudre à prononcer le nom de Zenko. Sa physionomie était bouleversée. « Vous l'avez cru cependant vous-même un instant ?» dit Consuelo, qui l'examinait avec attention. « J'ai la vue fort basse, et j'aurais dû me rappeler que cette rencontre était impossible. »« Impossible? Zenko est donc bien loin d'ici ?»« Assez loin, pour que vous n'ayez plus rien à redouter de sa folie. »« Ne sauriez-vous me dire d'où lui était venue cette haine subite contre moi, après les témoignages de sympathie qu'il m'avait donnés ?»« Je vous l'ai dit, d'un rêve qu'il fit la veille de votre descente dans le souterrain. » Il vous vit en songe me suivre à l'autel, où vous consentiez à me donner votre foi. Et là, vous vous mîtes à chanter nos vieux hymnes bohémiens d'une voix éclatante qui fit trembler toute l'église. Et pendant que vous chantiez, il me voyait pâlir et m'enfoncer dans le pavé de l'église, jusqu'à ce que je me trouvasse enseveli et couché mort dans le sépulcre de mes aïeux. Alors il vous vit jeter à la hâte votre couronne de mariée, pousser du pied une dalle qui me couvrit à l'instant, et danser sur cette pierre funèbre en chantant des choses incompréhensibles dans une langue inconnue et avec tous les signes de la joie la plus effrénée et la plus cruelle. Plein de fureur, il se jeta sur vous, mais vous, vous étiez déjà envolé en fumée, et il s'éveilla, baigné de sueur et transporté de colère. Il m'éveilla moi-même, car ses cris et ses imprécations faisaient retentir la voûte de sa cellule. J'eus beaucoup de peine à lui faire raconter son rêve, et j'en eus plus encore à l'empêcher d'y voir un sens réel de ma destinée future. Je ne pouvais le convaincre aisément, car j'étais moi-même sous l'empire d'une exaltation d'esprit tout à fait maladive, et je n'avais jamais tenté jusqu'alors de le dissuader lorsque je le voyais ajouter foi à ses visions et à ses songes. Cependant, j'eus lieu de croire, dans le jour qui suivit cette nuit agitée, qu'il ne s'en souvenait pas ou qu'il n'y attachait aucune importance, car il n'en dit plus un mot, et lorsque je le priai d'aller vous parler de moi, il ne fit aucune résistance ouverte. Il ne pensait pas que vous eussiez jamais la pensée ni la possibilité de venir me chercher où j'étais, et son délire ne se réveilla que lorsqu'il vous vit l'entreprendre. Toutefois, il ne me montra sa haine contre vous qu'au moment où nous le rencontrâmes à notre retour par les galeries souterraines. C'est alors qu'il me dit laconiquement, en bohémien, que son intention et sa résolution étaient de me délivrer de vous, c'était son expression, et de vous détruire la première fois qu'il vous rencontrerait seul, parce que vous étiez le fléau de ma vie et que vous aviez ma mort écrite dans les yeux. Pardonnez-moi de vous répéter les paroles de sa démence, et comprenez maintenant pourquoi j'ai dû l'éloigner de vous et de moi. N'en parlons pas davantage, je vous en supplie. Ce sujet de conversation m'est fort pénible. J'ai aimé Zenko comme un autre moi-même. Sa folie s'était assimilée et identifiée à la mienne, au point que nous avions spontanément les mêmes pensées, les mêmes visions, et jusqu'aux mêmes souffrances physiques. Il était plus naïf et partant plus poète que moi. Son humeur était plus égale, et les fantômes que je voyais, affreux et menaçants, il les voyait doux et tristes, à travers son organisation plus tendre et plus sereine que la mienne. La grande différence qui existait entre nous deux, c'était l'irrégularité de mes accès et la continuité de son enthousiasme. Tandis que j'étais tour à tour en proie au délire, ou spectateur froid et consterné de ma misère, il vivait constamment dans une sorte de rêve où tous les objets extérieurs venaient prendre des formes symboliques. Et cette divagation était toujours si douce et si affectueuse que dans mes moments lucides, les plus douloureux pour moi à coup sûr, j'avais besoin de la démence paisible et ingénieuse de Zenko pour me ranimer et me réconcilier avec la vie. « Oh, mon ami, dit Consuelo, vous devriez me haïr, et je me hais moi-même pour vous avoir privé de cet ami si précieux et si dévoué. Mais son exil n'a-t-il pas duré assez longtemps? À cette heure, il est guéri sans doute d'un accès passager de violence. Il en est guéri, probablement, dit Albert avec un sourire étrange et plein d'amertume. Eh bien, reprit Consuelo, qui cherchait à repousser l'idée de la mort de Zenko. Que ne le rappelez-vous pas? Je le reverrai sans crainte, je vous assure, et à nous deux, nous lui ferions oublier ses préventions contre moi. Ne parlez pas ainsi, Consuelo, dit Albert avec abattement. Ce retour est impossible désormais. J'ai sacrifié mon meilleur ami, celui qui était mon compagnon, mon serviteur, mon appui, ma mère prévoyante et laborieuse, mon enfant naïf, ignorant et soumis, celui qui pourvoyait à tous mes besoins, à tous mes innocents et tristes plaisirs, celui qui me défendait contre moi-même dans mes accès de désespoir, et qui employait la force et la ruse pour m'empêcher de quitter ma cellule lorsqu'il me voyait incapable de préserver ma propre dignité et ma propre vie dans le monde des vivants et dans la société des autres hommes. J'ai fait ce sacrifice sans regarder derrière moi et sans avoir de remords, parce que je le devais. Parce qu'en affrontant les dangers du souterrain, en me rendant la raison et le sentiment de mes devoirs, vous étiez plus précieuse, plus sacrée pour moi que Zenko lui-même. Ceci est une erreur, un blasphème peut-être, Albert. Un instant de courage ne saurait être comparé à toute une vie de dévouement. Ne croyez pas qu'un amour égoïste et sauvage m'ait donné le conseil d'agir comme je l'ai fait. J'aurais su étouffer un tel amour dans mon sein et m'enfermer dans ma caverne avec Zenko, plutôt que de briser le cœur et la vie du meilleur des hommes. Mais la voix de Dieu avait parlé clairement. J'avais résisté à l'entraînement qui me maîtrisait. Je vous avais fui, je voulais cesser de vous voir. Tant que les rêves et les pressentiments qui me faisaient espérer en vous l'ange de mon salut ne se seraient pas réalisés. Jusqu'au désordre apporté par un songe menteur dans l'organisation pieuse et douce de Zenko, il partageait mon aspiration vers vous, mes craintes, mes espérances et mes religieux désirs. L'infortuné, il vous méconnut le jour même où vous vous réveilliez. La lumière céleste qui avait toujours éclairé les régions mystérieuses de son esprit s'éteignit tout à coup, et Dieu le condamna en lui envoyant l'esprit de vertige et de fureur. Je devais l'abandonner aussi, car vous m'apparaissiez enveloppé d'un rayon de la gloire, vous descendiez vers moi sur les ailes du prodige, et vous trouviez, pour me dessiller les yeux, des paroles que votre intelligence calme et votre éducation d'artiste ne vous avaient pas permis d'étudier et de préparer. La pitié, la charité vous inspiraient, et sous leur influence miraculeuse, vous me disiez ce que je devais entendre pour connaître et concevoir la vie humaine. Que vous ai-je donc dit de si sage et de si fort? Vraiment, Albert, je n'en sais rien. Ni moi non plus, mais Dieu même était dans le son de votre voix et dans la sérénité de votre regard. Auprès de vous, je compris en un instant ce que dans toute ma vie je n'eusse pas trouvé seul. Je savais auparavant que ma vie était une expiation, un martyre, et je cherchais l'accomplissement de ma destinée dans les ténèbres, dans la solitude, dans les larmes, dans l'indignation, dans l'étude, dans l'ascétisme et les macérations. Vous me fîtes pressentir une autre vie, un autre martyre, tout de patience, de douceur, de tolérance et de dévouement. Les devoirs que vous me traciez naïvement et simplement, en commençant par ceux de la famille, je les avais oubliés. Et ma famille, par excès de bonté, me laissait ignorer mes crimes. Je les ai réparés, grâce à vous. Et dès le premier jour, j'ai connu, au calme qui se faisait en moi, que c'était là tout ce que Dieu exigeait de moi pour le présent. Je sais bien que ce n'est pas tout, et j'attends que Dieu se révèle sur la suite de mon existence. Mais j'ai confiance maintenant, parce que j'ai trouvé l'oracle que je pourrais interroger. C'est vous, Consuelo. La Providence vous a donné pouvoir sur moi, et je ne me révolterai pas contre ses décrets en cherchant à m'y soustraire. Je ne devais donc pas hésiter un instant entre la puissance supérieure investie du don de me régénérer et la pauvre créature passive qui jusqu'alors n'avait fait que partager mes détresses et subir mes orages. Vous parlez de Tsenko? Mais que savez-vous si Dieu ne m'avait pas destiné à le guérir lui aussi? Vous voyez bien que j'avais déjà quelque pouvoir sur lui, puisque j'avais réussi à le convaincre d'un mot lorsque sa main était levée sur moi pour me tuer. Oh, mon Dieu, il est vrai. J'ai manqué de foi, j'ai eu peur. Je connaissais les serments de Tsenko. Il m'avait fait, malgré moi, celui de ne vivre que pour moi, et il l'avait tenu depuis que j'existe, en mon absence, comme avant et depuis mon retour. Lorsqu'il jurait de vous détruire, je ne pensais même pas qu'il fût possible d'arrêter l'effet de sa résolution. Et je pris le parti de l'offenser, de le bannir, de le briser, de le détruire lui-même. De le détruire, mon Dieu? Que signifie ce mot dans votre bouche, Albert? Où est Tsenko? Vous me demandez, comme Dieu à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Oh, ciel, ciel! Vous ne l'avez pas tué, Albert! Consuelo, en laissant échapper cette parole terrible, s'était attaché avec énergie au bras d'Albert et le regardait avec un effroi mêlé d'une douloureuse pitié. Elle recula, terrifiée de l'expression fière et froide que prit ce visage pâle, où la douleur semblait parfois s'être pétrifiée. « Je ne l'ai pas tué, répondit-il. Et pourtant je lui ai ôté la vie, à coup sûr. Oseriez-vous donc m'en faire un crime? Vous pour qui je tuerais peut-être mon propre père de la même manière? Vous pour qui je braverais tous les remords et briserais tous les liens les plus chers, les existences les plus sacrées? Si j'ai préféré, à la crainte de vous voir assassiné par un fou, le regret et le repentir qui me rongent, avez-vous assez peu de pitié dans le cœur pour remettre toujours cette douleur sous mes yeux, et pour me reprocher le plus grand sacrifice qu'il ait été en mon pouvoir de vous faire? Ah, vous aussi, vous avez donc des moments de cruauté. La cruauté ne saurait s'éteindre dans les entrailles de quiconque appartient à la race humaine. » Il y avait tant de solennité dans ce reproche, le premier qu'Albert eût osé faire à Consuelo, qu'elle en fut pénétrée de crainte, et sentit, plus qu'il ne lui était encore arrivé de le faire, la terreur qu'il lui inspirait. Une sorte d'humiliation, puérile peut-être, mais inhérente au cœur de la femme, succédait au doux orgueil dont elle n'avait pu se défendre en écoutant Albert lui peindre sa vénération passionnée. Elle se sentit abaissée, méconnue sans doute, car elle n'avait cherché à surprendre son secret qu'avec l'intention, ou du moins avec le désir de répondre à son amour s'il venait à se justifier. En même temps, elle voyait que dans la pensée de son amant, elle était coupable. Car s'il avait tué Zenko, la seule personne au monde qui n'eût pas eu le droit de le condamner irrévocablement, c'était celle dont la vie avait exigé le sacrifice d'une autre vie infiniment précieuse d'ailleurs au malheureux Albert. Consuelo ne put rien répondre. Elle voulut parler d'autre chose, et ses larmes lui coupèrent la parole. En les voyant couler, Albert, repentant, voulut s'humilier à son tour. Mais elle le pria de ne plus jamais revenir sur un sujet si redoutable pour son esprit, et lui promit, avec une sorte de consternation amère, de ne jamais prononcer un nom qui réveillait en elle comme en lui les émotions les plus affreuses. Le reste de leur trajet fut rempli de contraintes et d'angoisses. Ils essayèrent vainement un autre entretien. Consuelo ne savait ni ce qu'elle disait ni ce qu'elle entendait. Albert pourtant paraissait calme, comme Abraham ou comme Brutus après l'accomplissement du sacrifice ordonné par les destins farouches. Cette tranquillité triste, mais profonde, avec un pareil poids sur la poitrine, ressemblait à un reste de folie. Et Consuelo ne pouvait justifier son ami qu'en se rappelant qu'il était fou. Si, dans un combat à force ouverte contre quelques bandits, il eût tué son adversaire pour la sauver, elle n'eût trouvé là qu'un motif de plus de reconnaissance et peut-être d'admiration pour sa vigueur et son courage. Mais ce meurtre mystérieux, accompli sans doute dans les ténèbres du souterrain, cette tombe creusée dans le lieu de la prière et ce farouche silence après une pareille crise, ce fanatisme stoïque avec lequel il avait osé la conduire dans la grotte et s'y livrer lui-même au charme de la musique, tout cela était horrible, et Consuelo sentait que l'amour de cet homme refusait d'entrer dans son cœur. « Quand donc a-t-il pu commettre ce meurtre ?» se demandait-elle. « Je n'ai pas vu sur son front depuis 3 mois un pli assez profond pour me faire présumer un remords. N'a-t-il pas eu quelques gouttes de sang sur les mains, un jour que je lui aurais tendu la mienne ? Horreur ! Il faut qu'il soit de pierre ou de glace, ou qu'il m'aime jusqu'à la férocité. Et moi ? Qui avait tant désiré d'inspirer un amour sans bornes, moi qui regrettais si amèrement d'avoir été faiblement aimée. Voilà donc l'amour que le ciel me réservait pour compensation. » Puis elle recommençait à chercher dans quel moment Albert avait pu accomplir son horrible sacrifice. Elle pensait que ce devait être pendant cette grave maladie qui l'avait rendue indifférente à toutes les choses extérieures. Et lorsqu'elle se rappelait les soins tendres et délicats qu'Albert lui avait prodigués, elle ne pouvait concilier les deux faces d'un être si dissemblable à lui-même et à tous les autres hommes. Perdue dans ses rêveries sinistres, elle recevait d'une main tremblante et d'un air préoccupé les fleurs qu'Albert avait l'habitude de cueillir en chemin pour les lui donner, car il savait qu'elle les aimait beaucoup. Elle ne pensa même pas à le quitter, pour rentrer seule au château et dissimuler le long tête-à-tête qu'ils avaient eu ensemble. Soit qu'Albert n'y songea pas non plus, soit qu'il ne crut pas devoir feindre davantage avec sa famille, il ne l'en fit pas ressouvenir. Et ils se trouvèrent à l'entrée du château, face à face avec la chanoinesse. Consuelo, et sans doute Albert aussi, vit pour la première fois la colère et le dédain enflammer les traits de cette femme, que la bonté de son cœur empêchait d'être laide ordinairement, malgré sa maigreur et sa difformité. « Il est bien temps que vous rentriez, mademoiselle, » dit-elle à la porporina d'une voix tremblante et saccadée par l'indignation. « Nous étions fort en peine du comte Albert. Son père, qui n'a pas voulu déjeuner sans lui, désirait avoir avec lui ce matin un entretien que vous avez jugé à propos de lui faire oublier. Et quant à vous, il y a dans le salon un petit jeune homme qui se dit votre frère et qui vous attend avec une impatience peu polie. » Après avoir dit ces paroles étranges, la pauvre Wenceslawa, effrayée de son courage, tourna le dos brusquement et courut à sa chambre, où elle toussa et pleura pendant plus d'une heure. Chapitre 57.
Ma tante est dans une singulière disposition d'esprit, dit Albert à Consuelo en remontant avec elle l'escalier du perron.
Je vous demande pardon pour elle, mon ami. Soyez sûr qu'aujourd'hui même elle changera de manière et de langage.
Mon frère, dit Consuelo stupéfaite de la nouvelle qu'on venait de lui annoncer, et sans entendre ce que lui disait le jeune comte.
Je ne savais pas que vous eussiez un frère, reprit Albert, qui avait été plus frappé de l'aigreur de sa tante que de cet incident.
Sans doute, c'est un bonheur pour vous de le revoir, cher Consuelo, et je me réjouis.
Ne vous réjouissez pas, monsieur le comte, reprit Consuelo, qu'un triste pressentiment envahissait rapidement.
C'est peut-être un grand chagrin pour moi qui se prépare, et...
Elle s'arrêta tremblante, car elle était sur le point de lui demander conseil et protection. Mais elle craignit de se lier trop envers lui, et n'osant ni accueillir ni éviter celui qui s'introduisait auprès d'elle à la faveur d'un mensonge, elle sentit ses genoux plier et s'appuya en pâlissant contre la rampe à la dernière marche du perron.
« Craignez-vous quelque fâcheuse nouvelle de votre famille ?» lui dit Albert, dont l'inquiétude commençait à s'éveiller.
« Je n'ai pas de famille, » répondit Consuelo en s'efforçant de reprendre sa marche.
Elle faillit dire qu'elle n'avait pas de frère. Une crainte vague l'en empêcha. Mais en traversant la salle à manger, elle entendit crier sur le parquet du salon les bottes du voyageur qui s'y promenait de long en large avec impatience. Par un mouvement involontaire, elle se rapprocha du jeune comte et lui pressa le bras en y enlaçant le sien, comme pour se réfugier dans son amour à l'approche des souffrances qu'elle prévoyait. Albert, frappé de ce mouvement, sentit s'éveiller en lui des appréhensions mortelles.
« N'entrez pas sans moi !» lui dit-il à voix basse. « Je devine, à mes pressentiments qui ne m'ont jamais trompé, que ce frère est votre ennemi et le mien. J'ai froid, j'ai peur, comme si j'allais être forcé de haïr quelqu'un. »
Consuelo dégagea son bras qu'Albert serrait étroitement contre sa poitrine. Elle trembla en pensant qu'il allait peut-être concevoir une de ces idées singulières, une de ces implacables résolutions dont la mort présumée de Zenko était un déplorable exemple pour elle.
« Quittons-nous ici !» lui dit-elle en allemand, car de la pièce voisine on pouvait déjà l'entendre. « Je n'ai rien à craindre du moment présent, mais si l'avenir me menace, comptez, Albert, que j'aurai recours à vous. »
Albert céda avec une mortelle répugnance. Craignant de manquer à la délicatesse, il n'osait lui désobéir. Mais il ne pouvait se résoudre à s'éloigner de la salle. Consuelo, qui comprit son hésitation, referma les deux portes du salon en y entrant, afin qu'il ne pût ni voir ni entendre ce qui allait se passer.
Anzoletto, car c'était lui, elle ne l'avait que trop bien deviné à son audace et que trop bien reconnu au bruit de ses pas, s'était préparé à l'aborder effrontément par une embrassade fraternelle en présence des témoins. Lorsqu'il la vit entrer, seule, pâle, mais froide et sévère, il perdit tout son courage et vint se jeter à ses pieds en balbutiant. Il n'eut pas besoin de feindre la joie et la tendresse. Il éprouvait violemment et réellement ces deux sentiments, en retrouvant celle qu'il n'avait jamais cessé d'aimer malgré sa trahison. Il fondit en pleurs, et comme elle ne voulut point lui laisser prendre ses mains, il couvrit de baisers et de larmes le bord de son vêtement. Consuelo ne s'était pas attendue à le retrouver ainsi. Depuis 4 mois, elle le rêvait tel qu'il s'était montré la nuit de leur rupture, amer, ironique, méprisable et haïssable entre tous les hommes. Ce matin même, elle l'avait vu passer avec une démarche insolente et un air d'insouciance presque cynique. Et voilà qu'il était à genoux, humilié, repentant, baigné de larmes, comme dans les jours orageux de leur réconciliation passionnée. Plus beau que jamais, car son costume de voyage, un peu commun, mais bien porté, lui seyait à merveille, et le hâle des chemins avait donné un caractère plus mâle à ses traits admirables. Palpitante comme la colombe que le vautour vient de saisir, elle fut forcée de s'asseoir et de cacher son visage dans ses mains, pour se dérober à la fascination de son regard. Ce mouvement, Canzoletto prit pour de la honte, l'encouragea, et le retour des mauvaises pensées vint bien vite gâter l'élan naïf de son premier transport. Canzoletto, en fuyant Venise et les dégoûts qu'il y avait éprouvés en punition de ses fautes, n'avait pas eu d'autre pensée que celle de chercher fortune. Mais en même temps, il avait toujours nourri le désir et l'espérance de retrouver sa chère Consuelo. Un talent aussi éblouissant ne pouvait, selon lui, rester caché bien longtemps, et nulle part il n'avait négligé de prendre des informations, en faisant causer ses hôteliers, ses guides ou les voyageurs dont il faisait la rencontre. À Vienne, il avait retrouvé des personnes de distinction de sa nation, auquel il avait confessé son coup de tête et sa fuite. Elle lui avait conseillé d'aller attendre plus loin de Venise que le comte Giustiniani eût oublié ou pardonné son escapade. Et en lui promettant de s'y employer, elle lui avait donné des lettres de recommandation pour Prague, Dresde et Berlin. En passant devant le château des Géants, Canzoletto n'avait pas songé à questionner son guide. Mais, au bout d'une heure de marche rapide, s'étant ralenti pour laisser souffler les chevaux, il avait repris la conversation en lui demandant des détails sur le pays et ses habitants. Naturellement, le guide lui avait parlé des seigneurs de Rudolfstadt, de leur manière de vivre, des bizarreries du comte Albert, dont la folie n'était plus un secret pour personne. Surtout depuis l'aversion que le docteur Wetzelius lui avait vouée très cordialement. Ce guide n'avait pas manqué d'ajouter, pour compléter la chronique scandaleuse de la province, que le comte Albert venait de couronner toutes ses extravagances en refusant d'épouser sa noble cousine, la belle baronne Amélie de Rudolstadt, pour se coiffer d'une aventurière, médiocrement belle, dont tout le monde devenait amoureux cependant lorsqu'elle chantait, parce qu'elle avait une voix extraordinaire. Ces deux circonstances étaient trop applicables à Consuelo pour que notre voyageur ne demandât pas le nom de l'aventurière. Et en apprenant qu'elle s'appelait Porporina, il ne douta plus de la vérité. Il rebroussa chemin à l'instant même. Et, après avoir rapidement improvisé le prétexte et le titre sous lesquels il pouvait s'introduire dans ce château si bien gardé, il avait encore arraché quelques médisances à son guide. Le bavardage de cet homme lui avait fait regarder comme certain que Consuelo était la maîtresse du jeune comte, en attendant qu'elle fût sa femme, car elle avait ensorcelé, disait-on, toute la famille, et au lieu de la chasser comme elle le méritait, on avait pour elle dans la maison des égards et des soins qu'on n'avait jamais eus pour la baronne Amélie. Ces détails stimulèrent Canzoletto tout autant, et peut-être plus encore, que son véritable attachement pour Consuelo. Il avait bien soupiré après le retour de cette vie si douce qu'elle lui avait faite. Il avait bien senti qu'en perdant ses conseils et sa direction, il avait perdu ou compromis pour longtemps son avenir musical. Enfin, il était bien entraîné vers elle par un amour à la fois égoïste, profond et invincible. Mais à tout cela vint se joindre la vaniteuse tentation de disputer Consuelo à un amant riche et noble, de l'arracher à un mariage brillant, et de faire dire, dans le pays et dans le monde, que cette fille si bien pourvue avait mieux aimé courir les aventures avec lui que de devenir comtesse et châtelaine. Il s'amusait donc à faire répéter à son guide que la Porporina régnait en souveraine à Reisenbourg, et il se complaisait dans l'espérance puérile de faire dire par ce même homme à tous les voyageurs qui passeraient après lui qu'un beau garçon étranger était entré au galop dans le manoir inhospitalier des Géants, qu'il n'avait fait que venir, voir et vaincre, et que peu d'heures ou peu de jours après, il en était ressorti, enlevant la perle des cantatrices à très haut, très puissant seigneur, le comte de Rudolstadt. À cette idée, il enfonçait l'éperon dans le ventre de son cheval et riait de manière à faire croire à son guide que le plus fou des deux n'était pas le comte Albert. La chanoinesse le reçut avec méfiance, mais n'osa point les conduire, dans l'espoir qu'il allait peut-être emmener sa prétendue sœur. Il apprit d'elle que Consuelo était à la promenade et eut de l'humeur. On lui fit servir à déjeuner et il interrogea les domestiques. Un seul comprenait quelque peu l'italien et n'entendit pas malice à dire qu'il avait vu la signora sur la montagne avec le jeune comte. Antoletto craignit de trouver Consuelo hautaine et froide dans les premiers instants. Il se dit que si elle n'était encore que l'honnête fiancée du fils de la maison, elle aurait l'attitude superbe d'une personne fière de sa position. Mais que si elle était déjà sa maîtresse, elle devait être moins sûre de son fait et trembler devant un ancien ami qui pouvait venir gâter ses affaires. Innocente, sa conquête était difficile, partant plus glorieuse. Corrompue, c'était le contraire, et dans l'un ou l'autre cas, il y avait lieu d'entreprendre ou d'espérer. Anzoletto était trop fin pour ne pas s'apercevoir de l'humeur et de l'inquiétude que cette longue promenade de la Porporina avec son neveu inspirait à la chanoinesse. Comme il ne vit pas le comte Christian, il put croire que le guide avait été mal informé, que la famille voyait avec crainte et déplaisir l'amour du jeune comte pour l'aventurière et que celle-ci baisserait la tête devant son premier amant. Après 4 mortelles heures d'attente, Anzoletto, qui avait eu le temps de faire bien des réflexions et dont les mœurs n'étaient pas assez pures pour augurer le bien en pareille circonstance, regarda comme certain qu'un aussi long tête-à-tête entre Consuelo et son rival attestait une intimité sans réserve. Il en fut plus hardi, plus déterminé à l'attendre sans se rebuter. Et après l'attendrissement irrésistible que lui causa son premier aspect, il se crut certain, dès qu'il la vit se troubler et tomber suffoquée sur une chaise, de pouvoir tout oser. Sa langue se délia donc bien vite. Il s'accusa de tout le passé, s'humilia hypocritement, pleura tant qu'il voulut, raconta ses remords et ses tourments en les peignant plus poétiques que de dégoûtantes distractions ne lui avaient permis de les ressentir. Enfin, il implora son pardon avec toute l'éloquence d'un vénitien et d'un comédien consommé. D'abord ému au son de sa voix, et plus effrayé de sa propre faiblesse que de la puissance de la séduction, Consuelo, qui depuis 4 mois avait fait elle aussi des réflexions, retrouva beaucoup de lucidité pour reconnaître, dans ses protestations et dans cette éloquence passionnée, tout ce qu'elle avait entendu maintes fois à Venise dans les derniers temps de leur malheureuse union. Elle fut blessée de voir qu'il avait répété les mêmes serments et les mêmes prières, comme s'il ne se fût rien passé depuis ces querelles où elle était si loin encore de pressentir l'odieuse conduite d'Anzoletto. Indignée de tant d'audace et de si beaux discours là où il n'eût fallu que le silence de la honte et les larmes du repentir, elle coupa court à la déclaration, en se levant et en répondant avec froideur. « C'est assez, Antoletto. Je vous ai pardonné depuis longtemps, et je ne vous en veux plus. L'indignation a fait place à la pitié, et l'oubli de vos torts est venu avec l'oubli de mes souffrances. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je vous remercie du bon mouvement qui vous a fait interrompre votre voyage pour vous réconcilier avec moi. Votre pardon vous était accordé d'avance, vous le voyez. Adieu donc, et reprenez votre chemin. »
Moi, partir, te quitter, te perdre encore?
S'écria Anzoletto, véritablement effrayé.
Non, j'aime mieux que tu m'ordonnes tout de suite de me tuer. Non, jamais je ne me résoudrai à vivre sans toi. Je ne le peux pas, Consuelo. Je l'ai essayé, et je sais que c'est inutile. Là où tu n'es pas, il n'y a rien pour moi. Ma détestable ambition, ma misérable vanité, auxquelles j'ai voulu en vain sacrifier mon amour, font mon supplice et ne me donnent pas un instant de plaisir. Ton image me suit partout, le souvenir de notre bonheur, si pur, si chaste, si délicieux.
Et où pourrais-tu en retrouver un semblable toi-même?
Et toujours devant mes yeux. Toutes les chimères dont je veux m'entourer me causent le plus profond dégoût.
Oh, Consuelo, souviens-toi de nos belles nuits de Venise, de notre bateau, de nos étoiles, de nos chants interminables, de tes bonnes leçons et de nos longs baisers, et de ton petit lit où j'ai dormi seul, toi disant ton rosaire sur la terrasse. Est-ce que je ne t'aimais pas alors? Est-ce que l'homme qui t'a toujours respecté, même durant ton sommeil, enfermé tête à tête avec toi, n'est pas capable d'aimer? Si j'ai été infâme avec les autres, est-ce que je n'ai pas été un ange auprès de toi? Et Dieu sait s'il m'en coûtait. Oh, n'oublie donc pas tout cela. Tu disais m'aimer tant, et tu l'as oublié. Et moi, qui suis un ingrat, un monstre, un lâche, je n'ai pas pu l'oublier un seul instant, et je n'y veux pas renoncer. Quoique tu y renonces sans regret et sans effort. Mais tu ne m'as jamais aimée, quoique tu fusses une sainte. Et moi, je t'adore, quoique je sois un démon. Il est possible, répondit Consuelo, frappé de l'accent de vérité qui avait accompagné ses paroles, que vous ayez un regret sincère de ce bonheur perdu et souillé par vous. C'est une punition que vous devez accepter, et que je ne dois pas vous empêcher de subir. Le bonheur vous a corrompu, Anzoletto. Il faut qu'un peu de souffrance vous purifie. Allez, et souvenez-vous de moi si cette amertume vous est salutaire. Sinon, oubliez-moi, comme je vous oublie, moi qui n'ai rien à expier, ni à réparer.
Ah, tu as un cœur de fer, s'écria Anzoletto, surpris et offensé de tant de calme. Mais ne pense pas que tu puisses me chasser ainsi. Il est possible que mon arrivée te gêne et que ma présence te pèse. Je sais fort bien que tu veux sacrifier le souvenir de notre amour à l'ambition du rang et de la fortune. Mais il n'en sera pas ainsi. Je m'attache à toi, et si je te perds, ce ne sera pas sans avoir lutté. Je te rappellerai le passé, et je le ferai devant tous tes nouveaux amis si tu m'y contrains. Je te redirai les serments que tu m'as faits au chevet du lit de ta mère expirante, et que tu m'as renouvelé 100 fois sur sa tombe et dans les églises, quand nous allions nous agenouiller dans la foule tout près l'un de l'autre, pour écouter la belle musique et nous parler tout bas. Je rappellerai humblement, à toi seul, prosterné devant toi, des choses que tu ne refuseras pas d'entendre. Et si tu le fais, malheur à nous deux, je dirai devant ton nouvel amant des choses qu'il ne sait pas, car ils ne savent rien de toi. Ils ne savent même pas que tu as été comédienne. Eh bien, et je le leur apprendrai, et nous verrons si le noble comte Albert retrouvera la raison pour te disputer à un comédien, ton ami, ton égal, ton fiancé, ton amant. Oh, ne me pousse pas au désespoir, Consuelo, ou bien...
Des menaces? Enfin, je vous retrouve et vous reconnais, Anzoletto, dit la jeune fille indignée. Eh bien, je vous aime mieux ainsi, et je vous remercie d'avoir levé le masque. Oui, grâce au ciel, je n'aurai plus ni regret ni pitié de vous. Je vois ce qu'il y a de fiel dans votre cœur, de bassesse dans votre caractère, et de haine dans votre amour. Allez, satisfaites votre dépit, vous me rendrez service. Mais, à moins que vous ne soyez aussi aguerri à la calomnie que vous l'êtes à l'insulte, vous ne pourrez rien dire de moi dont j'ai à rougir. » En parlant ainsi, elle se dirigea vers la porte, l'ouvrit et allait sortir lorsqu'elle se trouva en face du comte Christian. À l'aspect de ce vénérable vieillard qui s'avançait d'un air affable et majestueux après avoir baisé la main de Consuelo, Anzoletto, qui s'était élancé pour retenir cette dernière de gré ou de force, recula intimidé et perdit l'audace de son maintien.